Pendant toute cette semaine, à 13h30 et 20h30, Radio Escapade vous propose l'écoute des 5 épisodes de la série documentaire « La rivière en soi », réalisée par Florent Dupuis en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. « La rivière en soi » est un docu-fiction conçu à partir d'un collectage de témoignages d'habitants et d'habitantes, artistes ou passionnés des rivières, qui livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau liée aux rivières qui traversent le Grand Pic Saint-Loup. Ce podcast a été produit et diffusé dans le cadre de la Route de l'eau, un événement itinérant, culturel, écologique, scientifique et participatif autour de la présence et la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La Route de l'eau a été organisée par Lagrange Bouillon Cube du 26 septembre au 4 octobre de cette année. Épisode 2. Dans les veines de la terre.
Bah en fait, il faut savoir que le karst, on connaît rien.
On connaît rien?
Bah, c'est un bordel monstre. Enfin, passe-moi l'expression, c'est un bordel sans nom. Donc c'est des conduits faillés, cassés, qui sont en connexion, pas machin, on ne sait rien. Si tu fais un trou là, aussi bien tu n'auras pas d'eau, tu seras dans le calcaire jusqu'à 300 mètres, tu ne trouveras pas d'eau. Et puis tu fais le trou, mais je te dis pas de conneries, hein, 5 mètres à côté. Hein. 5 mètres à côté, tu es sur la galerie et là, c'est... voilà.
Épisode 2. Dans les veines de la terre.
Dans les veines de la terre.
Découvrir de telles choses, bah, ça voudrait dire peut-être explorer des espaces qui ont peu encore été explorés. On parle notamment des... Enfin, je pense notamment au fond sous-marin. Il y a probablement des choses assez incroyables à découvrir. Après, est-ce qu'à notre échelle, dans notre carte, il y a des choses comme ça qui existent et qui sont encore peu connues? C'est peut-être pas complètement à exclure. Enfin, il y a pas mal de gens, hein, qui se penchent sur l'exploration karstique, mais ça demande des compétences et du matériel, des moyens, voilà, qui sont assez exigeants. Donc, je pense qu'on n'est pas encore allé tout explorer sur le karst, mais peut-être qu'il y a des choses qui existent. L'avenir nous le dira, ou pas.
Le karst, c'est un réseau hydrographique souterrain qu'on ne voit pas, mais qui existe pour alimenter les rivières souterraines et ensuite les sources qui voient le jour au pied des montagnes généralement.
Jean-Yves Bigot, karstologue et spéléologue.
Le mot, il vient de l'étranger, du karst slovène, et il a été intégré dans le vocabulaire français ensuite. Parler du karst, ça veut dire parler des plateaux calcaires, et notamment, une des caractéristiques du karst, c'est l'absence de cours d'eau. Or, c'est ce que tout le monde a remarqué, on a des plateaux calcaires, on n'a pas d'eau, hormis la rivière, l'Hérault, qui traverse le karst de part en part, par des gorges, et quelques grosses sources connues, comme le Lesse, le Lamalou ou la Bège.
J'ai une bibliothèque très très importante, peut-être une des plus importantes de la région parmi les spéléos, qui relate tout ça, hein, sur les roses, sur tout ce que tu veux, toutes les sources, j'ai tout ce qu'il faut.
Daniel Comon, spéléologue.
Donc depuis 71, exactement la date, je l'ai, ça y est, qu'on a coloré la veine du Couchant et la veine du Pioche dans le secteur du Coulet, sur le cos du Larzac. Hein. On sait maintenant pratiquement que les eaux souterraines, en fait, elles viennent donc de cette région du Coulet, entre la ferme de Ferussac et les fermes du Coulet. Voilà, là, le bassin d'alimentation. Et là, les différentes plongées qui ont été effectuées dans la Buège et dans le trop-plein de la source de la Buège qui est les vannes de la Coudoulière, à Auméjanel, ont permis d'explorer à peu près 3 ou 4 kilomètres de galeries noyées. L'une se dirige vers l'ouest, c'est-à-dire en direction, en gros, de la Vaquerie, en gros, la direction générale. Et puis une autre se dirige un peu plus vers le nord, à l'opposé, complètement à l'opposé, en direction du Peyre-Martine. Suite à ces plongées, les plongeurs de Marseille, il y a en 2012, ont débouché dans une immense salle, qui est certainement une des plus importantes salles de France, en amont de Péguérolles, donc c'est-à-dire dans la branche ouest. Et nous, spéléologues, en 2018, On a découvert un orifice de cavité inconnu qu'on a dégagé et on est tombé dans une grande cavité qui se trouve en superposition sur cette grande salle. On essaye d'accéder à cette grande salle parce qu'on est en superposition 50 mètres à peine au-dessus de ce plafond de salle. On essaye de tomber à l'intérieur de cette salle pour aller explorer la suite du réseau de la Buège. Mais tu sais que tout ça, bon, c'est publié, il n'y a pas de secret là-dedans, il suffit d'avoir les bonnes publications et puis d'être sur le terrain aussi.
L'Hérault est une terre qui est très riche en matière d'exploration spéléologique et de plongée souterraine, qui est une discipline un peu particulière. Il y a un premier temps l'exploration entre guillemets physique, c'est-à-dire en fait on est dans la cavité, on cherche il y a des parties connues et on espère même des parties inconnues, puisque être le premier à, moi je dis toujours, on a marché sur la Lune en 69. Là, il y a pas loin de chez nous, derrière Péguérolles de Buège, il y a des endroits où personne n'avait jamais mis le pied. Et c'est à côté de chez nous, sur le côte de l'Ortus aussi. Enfin, il y a de l'exploration spéléo. C'est actuellement la planète. Elle est, je dis toujours, tous les sommets ont été gravis par toutes les faces, et même maintenant par des guignolos qui se font mousser. Les déserts ont tous été cartographiés. On a eu des gens qui me portent. Hein. J'ai des bouquins d'eux, de Paul-Émile Victor, de Jean-Baptiste Charcot avec son bateau, Paul-Émile Victor, le pôle Nord, Théodore Monod qui partait dans le désert, qui était un scientifique, qui était à la fois botaniste, qui faisait des tas de choses. Ces gens-là, ils partaient dans les endroits de la planète où il y avait des blancs sur les cartes. Et alors aujourd'hui, maintenant avec les satellites, tout ça, il y a plus de surprises entre guillemets. Mais les deux endroits sur la planète où il y a encore des choses vierges, inconnues à découvrir, c'est les fosses abyssales ou en spéléologie sous terre. Moi, j'ai des copains suisses qui me reprennent, c'est l'emmental. Le gruyère n'a pas de trous, c'est l'emmental qui a des trous. Notre vision en tant que spéléologue, ce qui nous plaît, c'est de faire de l'exploration, de découvrir du neuf. Mais ça s'arrête pas là. Sinon, ce serait purement égoïste et ça apporterait rien du tout. Et de ramener le maximum d'informations pour pouvoir le partager avec des gens qui voient, qui peuvent interpréter, y mettre des hypothèses. Et là aussi, moi, à titre personnel, je ne suis pas un scientifique. Daniel n'en est pas un non plus. Mais on a une approche, on revendique une approche entre guillemets scientifique dans la mesure où on cultive le doute. Et les hypothèses émises en spéléologie, on le voit. Moi, j'en parlais récemment avec un vrai scientifique, un prof de fac, qui s'est spécialisé justement dans la géologie, dans la carstologie, et qui s'excusait, entre guillemets, d'avoir émis une hypothèse qui n'avait pas été vérifiée par une exploration qu'on avait faite. Mais je disais, mais tu sais, si le karst, la montagne calcaire, c'était facile, ça se saurait, et il y aurait plus de monde qui se mettrait dessus, tu aurais plus de concurrents. Donc ça l'avait fait rire, mais c'est la réalité. Et en fait, on a plusieurs. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent les spélos sont des rêveurs, mais je dis ça sans, c'est pas du tout péjoratif. Et il y a des gens, moi, comme Daniel Comand, moi que j'admire, parce que c'est des gens qui ont cette capacité à lire les paysages, qui sont informés, qui sont, je m'en souviens, autodidactes. Nous, au contact des scientifiques, on a des informations qui nous reviennent. Nous, on apporte de la donnée, eux travaillent dessus, l'interprètent, font des hypothèses, qu'ils échangent avec nous en le rendant intelligible à notre niveau, puisqu'on n'est pas des scientifiques. Et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble et qu'on a l'œil un peu plus affûté, des fois, pour voir des choses, pour mieux filmer, etc. Et à partir de là, en fonction de la connaissance du moment, on peut émettre des hypothèses, on peut émettre éventuellement des recommandations pour éviter de faire des choses qui pourraient être préjudiciables. Mais ce qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est que les choses évoluent, la connaissance aussi, et ce qui était une vérité aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et nous, on est dans cette dimension-là. Donc, on n'est pas. C'est pour ça que je dis toujours, pas de dogme, alors que ce soit sur le plan technique, hein, bien sûr, pour notre sécurité, parce que c'est pareil aussi. Il y a des évolutions qui font repenser les choses, mais non plus aussi au niveau du savoir, au niveau de la connaissance. Pas de dogme, puisque par définition, on peut avoir des surprises. Le karst, c'est complexe. Il y a des choses qu'on peut. Donc, on émet des hypothèses, et tous les grands scientifiques le diront, et tous les grands spéléologues aussi qui ont travaillé dans cette discipline le disent aussi. Voilà, on émet des hypothèses. Et ensuite, elle se vérifie, elle se valide ou elle s'invalide. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Il n'y a pas de honte à avoir émis une hypothèse qui ne s'est pas vérifiée.
Alors, l'eau qui est ici, elle va se déverser dans l'Hérault. En fait, la rivière souterraine, là, je te montre la photo. Donc, tu vois, ça, c'est une photo que j'avais fait avec Charlie, qui est l'ancien responsable technique, Charlie Vertungen. Moi, je m'étais positionné là, ici, sur le rocher, et je lui tenais la lumière, comme ça. Et lui prenait la photo plus en amont. Ah non, c'était lui qui était positionné là. Et voilà, c'est pour donner le niveau des crues. Alors même quand il y a eu la dernière crue là cette année, l'eau elle a pas dépassé ça, tu vois. Alors que même moi j'étais habitué à aller voir jusque là. Et ça, ouais, c'était incroyable. Parce que t'as une émotion et puis c'est violent quand l'eau arrive. Parce que imagine, elle vient de tout là-haut, 700 mètres d'altitude, elle arrive en dénivelé. donc avec une force, avec une violence. Pour te donner une idée, les nettoyeurs haute pression pour les voitures ou autres, ou les terrasses, c'est 5 mètres cubes heure. Là, on est quasiment sur du 12 à 20 mètres cubes seconde. Donc le bruit, déjà quand la crue arrive, en fait, au niveau de la galerie des explorateurs, t'as un ronronnement qui devient de plus en plus puissant. Et là, tu peux être sûr que quand tu sors de la grotte, tu vas voir tes collègues qui vont te regarder. Alors, bah, ça ronronne. Ah, oh, bah, faut que j'aille écouter. Et là, bah, imagine qu'il y a 25 000 ans, c'était plein d'eau, tout le temps.
Est-ce que tu as vu à Péguérol, quand ça, au Méjanel, quand l'eau.
Coudoulière,
quand elle sort.
Ah, il faut y aller. Là,
il faut y aller parce que ça vaut le coup. Hein.
Alors, les enfants de la vallée de la rivière.
Ah, écoute, pas quand tu passes dans le lit de la rivière, qui est sèche, et quand il pleut beaucoup, l'eau, elle sort en geyser de la terre.
Et tu l'entends arriver.
Tu l'entends. Moi, ça, je l'ai vu avec. Mais tu sais que.
Non, moi non plus. Hein. Moi, je mens, on me l'a raconté.
Mais.
Souvent, mais
écoute,
je l'ai jamais
moi, j'étais petite, j'y suis allée avec mon grand-père. C'est la seule fois que j'y suis allée parce qu'il ne voulait pas que j'y aille. Et mon grand-père, il me tenait avec une ceinture pour pas que je m'approche. Parce que c'est vrai que c'était impressionnant. Hein. C'était très impressionnant. Ça monte comme ça. Et puis,
ouais. À un moment,
tu l'entends arriver, tu entends le bruit.
L'air d'abord.
Voilà, tu entends comme si c'était. Voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est impressionnant. C'est à voir quand c'est comme ça. Mais il faut y être au moment où il arrive, où quand il pleut beaucoup et quand ça.
De l'eau jusqu'aux barrières et elle va ressortir par cette galerie qui rejoint le bord de la route et qui fait une énorme cascade d'eau. Donc ça, c'est un événement qui, même si on a l'habitude, qui est chaque année pour nous, il pouvait y en avoir 3-4, on était presque hystérique de voir cette eau dessiner la grotte à l'échelle géologique et puis aussi cette eau passée qui est un peu comme un corps humain, tu sais, quand tu vois le sang circuler. Quand tu regardes une feuille, tu vois la sève circuler, c'est toujours vraiment palpitant, tu vois, tu sens la vie.
Oui, ben, il y a la faute des grottes, hein, c'est tout un aspect particulier que les biospéléologues connaissent bien. Bon, il y a plusieurs types de faune qu'on peut y trouver, des escargots, oui, il y en a dans les sources, notamment ici, avec des escargots, des espèces qui ne vivent qu'ici, endémiques. En ce qui concerne les mammifères, ils vivent aussi dehors, on peut rencontrer des loirs, par exemple. Des blaireaux, ces animaux-là. Mais c'est pas énormément varié, hein, disons. Après, on peut avoir des animaux du style des troglobies, c'est-à-dire on peut avoir des coléoptères, ils sont pas très fréquents, mais sinon des crustacés. Complètement dépigmentés, donc complètement adaptés à leur milieu. Et eux, ils ne vivent que dans les grottes. On ne les connaît pas toujours, parce que là, c'est difficile d'aventurier toutes les espèces. Parfois, on en trouve de nouvelles. Donc, tout reste à faire.
Quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans.
Ouais.
On habitait au Châtelet-sur-Retourne. Et il y avait une rivière au fond de notre jardin.
Ouais.
Il y avait très souvent du bruit le soir. Et donc, moi, j'avais ma chambre qui donnait sur la rivière. Et tous les soirs, je regardais ce qui se passait. Je fermais mes volets parce que j'avais peur qu'on vienne me chercher.
Ouais.
Et en fait, je regardais par le petit cœur. J'avais des petits cœurs à mes volets.
Ah, t'avais
les volets étaient bleus avec des beaux petits cœurs.
Ouais.
Et moi, il fallait que je monte sur une chaise, sur la pointe des pieds, je pouvais regarder. Et je voyais la rivière couler au fond du jardin.
Génial.
C'était super. Et à soir, il y a eu un énorme, énorme bruit. Alors, j'ai regardé par le petit cœur, j'ai rien vu.
Ouais.
Mais le lendemain, je suis allée voir au bord de l'eau ce qu'il y avait.
C'était quoi comme bruit ?
Un espèce de grondement, brrr, et puis pff, d'un seul coup, plus rien.
D'accord.
Donc, le lendemain, je vais à l'école, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais le soir, je vais voir au bord de l'eau. Et qu'est-ce que je vois ? entre deux gigantesques pieds de rhubarbe, un espèce de petit être qui ressemblait à une pieuvre recouvert d'un voile opaque, gris. Je m'approche de ce petit personnage-là. Je m'approche, et il glisse, comme s'il glissait, au bord de l'eau. Hop, il passe derrière le lavoir. Alors moi, évidemment, j'ai peur. À 8 ans, on a toujours un peu peur. Donc je m'approche doucement, je regarde dans le lavoir, hop, plus rien. J'essaie de voir si je la revois. Ouais. Je vais revoir un soir, deux soirs, je vois rien. Et puis je décide d'en parler à mon voisin, Jean-Claude, qui avait 10 ans, lui.
C'est un peu plus grand que toi ?
Ouais. Un peu plus grand que moi. Ouais. On était dans la même école, mais il était au grand niveau, là. Et en fait, il me dit, moi aussi, des fois, j'entends des choses, mais je n'ai jamais rien vu. Mmh. Alors, on décide tous les deux d'aller voir un soir, deux soirs, trois soirs. On voyait un tas de choses, mais jamais la petite bête. Mais quand même, un soir, à force de venir, on a entendu un bruit. Donc, on a eu peur.
Le même bruit que la dernière fois ?
Le même bruit, à peu près le même bruit que la dernière fois. Mais on a vu cette espèce de petite chose se déplacer, rentrer dans l'eau. On hallucine complètement, tous les deux. Et plus rien, plus rien. Mais on a eu quand même la sensation qu'il nous écoutait, qu'il nous avait vus, et qu'il essayait pas de nous parler, mais qu'il avait un petit regard complice. Et puis après, on est retourné le soir au bord de l'eau. Et puis on le voyait pas. Mais on savait que lui, il nous observait.
Il y a les animaux de la faune aquatique qui vivent dans l'eau. Donc ça, on les connaît. Et puis il y a ceux qui vivent hors de l'eau. Mais on les connaît bien dans nos régions, mais si on se transpose dans d'autres régions, à l'étranger ou sur d'autres continents, on découvre sans cesse des espèces nouvelles, effectivement.
Quand on observait les radios de son crâne, attendez, voilà.
C'est ça la radio, d'accord.
Oui, je me souviens très bien, je me suis retourné pour voir l'équipe et tout le monde était comme moi. Ils étaient, il n'y a pas d'autre mot, abasourdis. Enfin, c'était quand même la première fois qu'on avait une patiente avec une proportion aussi forte. Et même, pour certains, la première fois qu'ils diagnostiquaient un cas réel. Hein. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment pas tout le jour. Tiens, regardez, là. Attendez, F3. On peut voir que toute la masse cérébrale a été repoussée contre la paroi interne de la boîte crânienne, comme ça. Acculée. Et c'est ce qui a causé ce déplacement. Et c'est là, vous voyez la masse d'eau au centre, là, entre les deux hémisphères cérébraux. Vous la voyez ?
Oui.
Hein,
oui.
Vous voyez, tu vois ? Je peux te tutoyer ?
Non,
bon, alors on se tutoie. Bon, et bien en fait, le cerveau, il a un certain degré de plasticité. Et la pression de la poche de liquide centrale agit un peu comme une main, comme ça, qui aplatit lentement une patte brisée, si vous voulez. Et qu'est-ce qui a causé ça ? Le drain ici qui s'est bouché, la pression a continué à s'accumuler et elle a créé une configuration particulière. Bon, parce que, alors, il faut reprendre les basiques, puisqu'on a affaire à des néophytes, mais si tu veux, après 3 ans, ton cerveau, il fait déjà 80% de sa taille totale et il arrive à maturité plutôt aux alentours de 25 ans. Ça, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que quand on voit tous ces jeunes aux arrêts de bus qui ont l'air un peu éteints, il faut bien se dire que le cerveau n'est pas fini. Ils ne sont pas finis. Donc, on peut supposer que la croissance de la boîte crânienne et celle de la masse cérébrale ont compensé la pression interne. Par contre, et c'est ça qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est que le crâne, il aurait dû présenter un surgonflement. Il aurait dû faire apparaître des déformations devant, derrière, peut-être pas comme Elephant Man, mais tu vois, un crâne qui ne serait pas tout à fait normal. Mais il semblerait que l'excès d'eau, là, ait quand même réussi à se diffuser. Autrement. Et voilà. Alors, on n'en est pas certain.
Mais ça, du coup, hein? Excuse-moi, je te coupe. Oui. Tu as publié, c'est ça, une cartographie cérébrale dans le Lancet, dans la revue scientifique.
Oui, oui, tout à fait, oui, oui.
Tu l'as encore, ça
Attends, je vais voir si j'ai... Voilà. Ah oui, attends.
toi, ça c'est facile. Le karst, tu vois, c'est les causes, c'est ça, là. Ouais. C'est tout plat, là, tu le vois. Donc ouais. ça c'est l'éponge. Lui, ici, là, il arrive à 300.
Au Vigan.
Ici, ouais, ici, juste avant, là. Donc ouais. C'est juste la zone Cévenol. Et quand il sort, il a reçu tout ça. Là, c'est 3000. Et
au pont du diable, c'est 3000, c'est ça, hein.
Normalement, le début naturel, si on enlève les prélèvements,
d'accord,
ça serait 3000. Mmh. Et avec la lergue, qui est aussi alimentée par tout ça...
Qui passe dans l'Odève.
Voilà, là, on arrive à 3500.
Oh, les voûtes sont près de Sangonis, après...
Et après, ça, c'est zéro, ça, c'est zéro, ça, c'est zéro, ça, c'est zéro, l'été. Quand je dis zéro, c'est zéro.
Les zéros au niveau de la Dourbie.
La Dourbie, la Boyne, la Payne, tous ces affluents, toute cette partie-là n'amène à rien.
Parce qu'il n'y a pas de karst.
Il n'y a pas de karst.
C'est ça.
Donc ils sont secs, c'est des ouèdes, ça.
Et en fait, ça veut dire que le milieu karstique, c'est propre à notre à notre région. En France, il n'y en a pas partout.
Il n'y en a pas partout. Donc si tu enlèves ça, tu arrives avec 300, alors tu vas, comme ça va ruisseler, tu auras un peu, tu vas arriver avec 1000, quoi. À tout casser. Mais tu arrives à 1000 au lieu de 3500, quoi. Donc c'est lui, alors qu'il ne pleut pas, il n'y a pas une goutte de pluie, c'est lui qui amène tout ça. Alors il y a la vis, il amène la vis, tu connais la vis, c'est monstrueux, qui crache là. L'art est alimenté par plein de sources là-dedans. La lergue est alimentée par tout ça.
Il y a la buège aussi.
La buège, alors ouais, qui ressort au sans fond ici. Tu as le lamalou qui ressort, il y a plein de sources, tu as la clamouse. Enfin, toute cette espèce de grosse éponge ressort l'été dans tout un tas de. Alors, par des grosses rivières ou par des petites sources. Mais à la fin, tu passes de 300 à 3500 ici. Voilà. Et après, c'est zéro. Et là, on prélève l'eau de l'Hérault, ici, là, donc c'est l'eau de l'Hérault, qui alimente jusqu'aux portes de Montpellier tout le Cap d'Agde, 200 000 personnes, 7, la Vérune, Saint-Jean-de-Védas.
Dans le même style d'idée, mais tout à fait autre chose, est-ce que vous connaissez le Goutal ?
Oui, moi je le connais.
Oui, mais c'est une source qui est quasiment au point le plus haut de la Serranne.
Oui, c'est ça.
Et qui coule toute l'année.
Toute l'année. Et à force, elle a fait, une petite conque.
Il y a une petite conque,
comme ça.
Et à l'époque, il y a longtemps que je suis pas allé, il y avait un verre et les gens y buvaient.
Oui, mais moi,
il y a longtemps que je suis pas allé, mais...
Elle
est marquée sur les cartes.
Moi, je ne peux plus marcher, mais en avant, eh bien, je sais que j'y allais. On montait par derrière le Méjanel, par Pierre Martin, là-haut.
Oui, tout à fait,
oui.
C'est de... Là, par contre, l'eau, elle est à gond. Comment elle y arrive là-haut, je ne sais pas, mais elle y arrive.
Elle sort à 700 ou 800 mètres d'altitude. Alors que toutes les eaux qui traversent la Serranne descendent, sortent au pied de la Serranne. Celle-là, elle sort. Donc ça, c'est un mystère des domaines, des sites quartiers.
Ma grand-mère, ça me le racontait, elle est sortie et elle est passée par son escalier.
C'est pas si vieux que ça. Mon frère à Saint-Martin-de-Londres, un route du Frouzet, il y a au moins 25 ans, et bien au milieu, ça s'est mangé, pouf, une source. Il a été obligé de faire un drain tout le tour de la maison. une source, c'était pas 10 mètres cubes minute, mais il est sorti de l'eau au milieu, ça s'est mangé.
Je me rappelle, un jour, elle me dit, on a carrelé la cuisine, il y avait un caniveau au milieu, on l'a carrelé. Quelques temps après, il y a eu un orage, tous les pavés ont éclaté et le caniveau est repassé.
On vit dans un monde en constante évolution, mais qu'on n'a pas assez exploré. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de sensations d'introspection. La spéléologie et le monde souterrain fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y a une espèce d'introspection et de se dire « j'ai peur, je suis claustro, je ne peux pas rentrer ». Oui, mais c'est que les peurs, elles viennent pas du fait que je vais être coincé dans une grotte, sauf si j'ai vécu des traumatismes. Donc, tu as un monde dans un monde. En fait, t'as un monde, t'as la planète dans un univers, dans une galaxie. Et puis, tu descends de cette planète, tu t'aperçois que t'as deux autres mondes. T'as le monde sous-marin. Parce que tu te rends compte que dans ce monde sous-marin, il y a certaines couches de nuages, de gaz qu'on n'a pas passé. Alors, il y a des films qui s'en servent un peu. Mais le monde souterrain, c'est pareil. Il y a des
mécanismes qu'on ne connaît pas du tout en termes de biologie, d'hydrobiologie, ça c'est sûr. Et puis au niveau de la connaissance du karst, ça, il y en a pour 500 ou 1000 ans d'amélioration de connaissances, c'est impossible de tout connaître. Donc oui, c'est un sujet passionnant qui n'aura pas de fin. Le mystère du karst.
La question de l'interconnexion entre les bassins versants souterrains, elle est assez complexe. D'une part parce qu'on ne le voit pas. Quand on dessine des bassins versants, on dessine la ligne de crête. Donc, c'est-à-dire une goutte d'eau, si elle tombe d'un côté ou de l'autre de la crête, elle va aller dans deux rivières différentes.
Vincent Prier, hydrobiologiste spécialisé dans les mollusques d'eau douce.
En souterrain, ça ne marche pas comme ça, puisqu'on a évidemment du pendage, des couches qui sont penchées. Et donc, on peut très bien tomber, comme la goutte d'eau, tomber sur le versant nord et puis couler finalement sur le versant sud, parce qu'en souterrain, on traverse la montagne. Donc, c'est très difficile de savoir délimiter ces bassins. Et c'est justement un des sujets qui m'occupe le plus, c'est de se dire, nos escargots souterrains ou d'autres bêtes, ils peuvent nous permettre de faire ça. C'est-à-dire se dire qu'un bassin versant souterrain va se comporter comme une île, et donc les espèces qu'on aura dans le bassin versant du Lez, on les aura pas dans le bassin versant du Vidourle, sauf si ça communique. Si ça communique en souterrain, ça va se déplacer, donc on aura exactement la même chose des deux côtés. Et si ça ne communique pas, on aura des choses différentes. En tout cas, c'est le schéma théorique. Alors, ça marche assez bien pour le Lez, qui a vraiment sa faune particulière. C'est un peu plus complexe pour Vidourle Hérault.
Pourquoi ?
Je pense qu'il y a des connexions en amont. Je pense qu'il y a des connexions souterraines en amont qui font qu'on retrouve un petit peu les mêmes choses. Et là, j'ai poussé un peu plus en plus récemment, puisque j'ai fait des études génétiques. Donc, au départ, c'était... Je me basais plutôt sur les coquilles, parce que les bêtes sont très très difficiles à trouver. Mais avec l'aide des plongeurs spéléo, notamment de Franck Vasseur, j'ai pu récolter des bêtes vivantes, faire de la génétique, et là c'est beaucoup plus poussé. Parce que...
Tu as l'ADN.
Moi j'ai l'ADN des espèces, et s'il y a des connexions, il y aura de l'hybridation, et donc là l'ADN sera le même. Et puis s'il y a même des très légères différences, ça me fera dire qu'il y a des isolats. Et sur l'ADN, le moitié Syria Vidourlensis, que j'ai appelé Vidourlensis, il passe dans les gorges de l'Hérault. On a le même à Sauve, la même séquence génétique à Sauve, et je crois que c'était des bêtes de cabriers, donc juste en dessous des sans-fonds. Donc a priori, là, on a des connexions entre ces deux-là.
Là où on peut parler de mémoire de l'eau, je pense, c'est que les eaux karstiques, justement, proviennent donc du sous-sol. Et je sais que, par exemple, la source du Durzon, alors elle est en dehors du cadre du secteur qui t'intéresse, mais c'est le nord Larzac, pardon, et elle alimente 17 communes autour de la commune de Nantes, près de Millau. Et les études qui ont été faites par le laboratoire hydrosciences de Montpellier ont prouvé que dans l'eau qui sort, on a en gros, je simplifie parce que je suis pas scientifique, ils m'ont bien expliqué, mais c'est moi qui ai pas bien compris. Mais en gros, il y a trois types d'eau dans l'eau qui sort actuellement. Si on prend un verre d'eau dans la source aujourd'hui, dans ce verre d'eau, il y a une partie qui restait pas très longtemps sous terre. C'est celle en fait qui, quand il pleut, transite par des fractures, des drains préférentiels et vient de juste de la surface et descend quasi verticalement jusqu'à la source et réapparaît rapidement. Il y a une autre partie qui provient de plus loin sur le massif, puisque le bassin d'alimentation est assez étendu. Donc elle a besoin de transiter un certain temps sous terre avant de réapparaître à la source. Donc là, ça peut être de l'échelle à quelques semaines, à quelques mois. Et puis il y a carrément une partie de l'eau qui a 20 ans. Et ça, en fait, ce sont des endroits où il y a des poches, des volumes en fait, ou des réseaux de failles impénétrables ou de fractures dans lesquelles il y a de l'eau qui est stockée. Et cette eau-là, en fait, est immobile. Elle n'est activée qu'en cas de grosse crue. Donc, ça vidange en partie, ça remplace. Donc, il y a une partie, voilà, mémoire entre guillemets, réservoir avec différentes. Et donc, ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant aussi, quoi. Et le problème qu'on a, c'est que s'il y a des pollutions, elles sont pas forcément immédiates. Il y en a parfois où c'est immédiat, mais elles peuvent ne ressortir que dans 20 ans, à cause de ce phénomène-là, par exemple. Donc, on a des bombes à retardement qui peuvent arriver aussi.
Si on s'intéresse à l'âge de l'eau dans le karst, c'est quand même quelque chose de très, très complexe, puisqu'en permanence, on a des eaux très, très récentes, avec des eaux plus anciennes, qui peuvent avoir plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, mais on est quand même avec des eaux très récentes. Et du coup, ça génère une très très forte vulnérabilité.
La source du Lez, donc au final, c'est un fleuve côtier qui fait une trentaine de 28 km, donc à l'échelle d'un cours d'eau, c'est tout petit. Hein.
Arnaud Corbarieux, hydrobiologiste à Aquascope Saint-Mathieu-de-Trévier.
Le périmètre dans lequel... toute goutte de pluie tombée va s'infiltrer dans le sol et ressortir à la source, le périmètre de ce karst-là est vraiment très important. Et du coup, dans ce périmètre-là, et notamment à proximité, je sais que la route, par exemple, elle est interdite aux camions de transport de matières sensibles. Parce qu'imaginons, un camion citerne fait une embardée et répand toute sa cuve de fioul dans le sol, tu vas infiltrer la nappe, tu pollues le karst, ça ressort à la source, et là, typiquement, c'est une catastrophe écologique. Donc, c'est pas au niveau des avions, mais par contre, on va mettre en sorte de sécuriser un périmètre pour éviter d'avoir ce type de pollution-là ou d'accident-là, accidentel notamment.
Ce karst est exploité pour l'eau potable depuis très longtemps, depuis de façon, on va dire, qu'on peut qualifier d'industriel depuis les années 60 et encore plus depuis les années 80. Donc c'est des volumes d'eau, des centaines de millions de mètres cubes. Des dizaines de millions de mètres cubes, pas des centaines, annuellement. Donc en gros, c'est entre 30 et 35 millions de mètres cubes qui sont prélevés chaque année dans le karst lèse. Et tout ça, ça se fait... Il y a un cadre, on ne fait pas ça comme ça, il y a un cadre réglementaire, donc il y a la loi sur l'eau. Et donc, c'est le même principe. Donc, on a des dossiers à monter, souvent des dossiers d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour des prélèvements aussi importants. Et on doit mettre en œuvre des actions. Donc, il y a des arrêtés qui fixent un cadre réglementaire d'exploitation des captages. Et donc, on se doit de restituer. Par exemple, on n'a pas le droit, un exemple très concret, on n'a pas le droit d'assécher volontairement un cours d'eau en France.
Il se trouve que moi, je coordonne un service national d'observation du karst, qui est un des services d'observation du CNRS, où il va y avoir donc des suivis sur ces hydrosystèmes karstiques qui vont être réalisés dans des environnements géologiques, climatiques, physiographiques, variés, très variés. On va avoir des sites qui sont... en Normandie, sur la Craie, on a des sites dans le Jura, on a des sites du côté du Vaucluse, avec l'une des plus grandes sources karstiques, qui est la fontaine de Vaucluse, on a des sites dans les Pyrénées, et on a bien sûr, au nord de Montpellier, un site emblématique, qui est le site de la source du Lez, sur lequel on réalise des observations depuis une vingtaine d'années maintenant, et où il y a de très forts enjeux, bien évidemment pour la métropole de Montpellier, mais également, pour tout ce qui va être écosystème dépendant de ces eaux souterraines karstiques. On parlait du Chabot du Lez précédemment. Bien évidemment, il est important qu'il y ait bon état quantitatif de l'aquifère qui soit en mesure de subvenir aux écoulements de surface, même s'il y a une gestion tout à fait particulière de l'aquifère du Lez, puisqu'on va prélever davantage que ce que peut délivrer la source pendant l'été. Mais on va restituer une partie de l'eau pompée au cours d'eau. Ce qui permet justement d'assurer un bon état écologique du cours d'eau et surtout maintenir les populations.
Un de nos rôles au niveau de l'EPTB, ça a été de mettre en relation tous les gens qui étudient, qui utilisent ce karst, ces ressources karstiques. Donc on a appelé ça un projet Grand Karst. Sont regroupées les collectivités, donc le Lodévoué Larzac, le Grand Pic Saint-Loup, la vallée de l'Hérault, les chercheurs, le BRGM notamment, et puis Hydrosciences Montpellier. Donc au sein de ce projet Grand Karst, il y a les collectivités qui sont représentées, Grand Pic Saint-Loup, Lodévoué Larzac, vallée de l'Hérault, donc celles qui sont sur le karst, les scientifiques avec le BRGM, le laboratoire Hydrosciences Montpellier. Et on a aussi les spéléos, qui ont une connaissance très précise de ce qui se passe au niveau souterrain. Voilà. Donc on a mis en relation tous ces gens, en réseau tous ces gens, pour avoir une vision globale du fonctionnement de ce karst. Et puis, avec un projet d'étudier son comportement sous l'influence du changement climatique.
Pour aller au-delà des connaissances actuelles, mais il faut continuer à... enregistrer, mesurer ce qui se passe dans ces hydrosystèmes naturels de façon à ce qu'on ait des éléments factuels, concrets, quantifiables qui nous permettent justement d'aller caractériser, analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer en rentrant ces données dans des modèles. Voilà.
Peut-être. Non. Voilà. Alors, là, ce que tu vois, ça, c'est l'IRM. Et là, voilà, ça, c'est la radio. Là, la patiente, elle avait 10 ans. C'est remarquable, hein ? Et tu vois, les nervures formaient ce réseau complexe de terminaison. Comme la matière grise est mise à plat dans cette configuration particulière, on a une organisation plus harmonieuse. Et pour nous, neurochirurgiens, c'est beaucoup plus lisible, très facile à étudier. Et si on superpose l'activité cérébrale, comme ceci, hein, on dirait vraiment une carte topographique, non ?
C'était un épisode de La Rivière en Soi, un podcast de Florent Dupuis, une création de Radio Fenestrou. La suite demain à 13h30 et 20h30.